Micro Méga, Patrick Chompré.
Micro-méga, nous revoilà avec beaucoup de choses au programme, des algues, de la Méditerranée, de la biodiversité en milieu marin, avec notre invité Lynn Le Gall en troisième partie d'émission. Du molybdène, ce produit indispensable à la médecine moderne et dont il va falloir gérer la pénurie pendant quelques années. Mais tout de suite, avec Caroline Lachowski, de A comme âge de l'univers à Z comme zodiaque, un parcours à travers le cosmos. Un parcours dans la connaissance que vous avez fait avec le dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles qui sort actuellement aux éditions Plomb, signé Trinh Xuân Thuan, spécialiste de l'astronomie que vous nous présentez, Caroline.
Mais oui, alors dans son dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, il y a presque des univers entiers, enfin j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'on trouve vraiment tout dans ce dictionnaire, toutes les questions et même parfois quelques réponses à toutes ces questions que les hommes se sont posées depuis la nuit des temps en regardant le ciel, des plus métaphysiques sur l'origine de l'univers ou de nous-mêmes, poussière d'étoiles, jusqu'au plus astrophysique sur les trous noirs, les exoplanètes, les météorites et autres pulsars. Parce que le mérite de Trinh Xuân Thuan, astrophysicien de renom, passionné par la lumière, son originalité c'est d'être à la fois très pointu scientifiquement, tout en osant aussi aborder des aspects plus philosophiques, voire poétiques ou même spirituels, ce qui nous le rend finalement bien plus abordable, même sans grande culture scientifique. Trinh Xuân Thuan, bonjour.
Bonjour.
C'est pas étonnant du tout quand on vous connaît un peu, quand on connaît l'astrophysicien que vous êtes, que l'on vous retrouve aujourd'hui auteur de ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, parce que vous êtes un astrophysicien amoureux de votre sujet et toujours émerveillé. Ça change pas par le ciel, les étoiles, l'univers, la lumière.
Non, je pense pas que cette passion, elle va toujours durer. Hein. Je ressens toujours un frémissement énorme quand je vais mon télescope et je reçois cette lumière qui est partie des milliards d'années avant, même avant que les atomes de mon corps soient fabriqués par une étoile, parce que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et donc, pour moi, c'est d'abord très émotionnel, hein, c'est le sentiment d'esthétique, sentiment d'admiration, l'harmonie, la beauté de l'univers. Et puis après, bien sûr, il y a le travail intellectuel qui vient, l'analyse de cette lumière précieuse que je collecte avec mon télescope.
Très émotionnel, d'où ce dictionnaire amoureux. Au fond, c'est presque logique pour vous, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'amour, de l'enfance, des émotions.
Tout à fait. Et puis, donc, à travers ce dictionnaire amoureux, je voulais donc communiquer cette passion, cet amour du cosmos, justement, au lecteur.
Amour du cosmos. On n'a pas l'habitude d'entendre ça de la part d'un scientifique. L'amour du cosmos, c'est
tout
fort
à fait.
Quand même.
C'est, pour moi, c'est d'abord l'émotion et puis l'intellect après.
Alors, d'abord l'émotion, l'intellect après. On va essayer de vous suivre, Trinh Xuân Thuan, dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, qui fonctionne évidemment par ordre alphabétique, chronologique. Mmh. On va commencer pareil par la lettre A, qui commence bien finalement, parce que c'est l'âge de l'univers.
Oui, donc nous savons maintenant qu'elle est de l'ordre de 14 milliards d'années, à 13,7 milliards d'années, d'après les derniers calculs. Et donc, il y a des techniques assez précises pour déterminer cet âge. D'abord, bien sûr, l'expansion de l'univers lui-même. Donc, on se demande quand le mouvement d'expansion a commencé. Donc, comment on fait ça? On se sert des galaxies, donc il y a 100 milliards dans l'univers observable, pour comme balise. On mesure leur vitesse d'éloignement, et puis on mesure leur distance. Et donc, le temps mis pour la galaxie de partir du point de départ jusqu'à là où elle est, c'est quoi? C'est la distance divisée par la vitesse, hein, c'est ça. Et donc, on divise ces deux. Et donc, on fait ça pour nombre de galaxies, bien sûr. Et on trouve de l'ordre de 14 milliards d'années. Et puis, donc, on peut aussi dater, par exemple, l'âge des étoiles les plus vieilles. Et on trouve, bien sûr, 14 milliards d'années. Donc, il y a des arguments de cohérence. C'est ça, comme ça que la science fonctionne. On peut aussi mesurer l'âge des plus vieux atomes. On a ce qu'on appelle des éléments radioactifs qui se désintègrent spontanément. Et donc, juste en d'autres éléments. Et donc, juste en mesurant le rapport de ces deux éléments, on peut déterminer l'âge de ces atomes. Et on trouve toujours aussi de l'ordre de 14 milliards d'années. Donc il y a une cohérence énorme qui donne confiance justement à cette théorie du Big Bang.
Et alors le Big Bang, c'est évidemment dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, Trinh Chuan Chuan. Vous, en même temps, vous nous parlez à l'instant de l'émerveillement, du frisson quand vous regardez le ciel, 14 milliards d'années, le Big Bang, et en même temps vous l'expliquez de manière tout à fait scientifique.
Oui, parce que quand même, nous sommes issus de ce Big Bang. C'est l'histoire de nos origines, en quelque sorte. Et donc, c'est toute une histoire, et j'essaie de raconter donc, dans ce dictionnaire cette histoire cosmique. Donc d'abord, le Big Bang, donc c'était une purée primordiale de particules élémentaires. Hein. D'abord, un vide rempli d'énergie. L'énergie se transforme en matière. Matière qui est proton, électron, neutron, qui se transforme en noyau d'hydrogène, donc le proton, et noyau d'hélium, deux protons, deux neutrons. Et c'est tout ce que fait le Big Bang, en fait. Donc, il n'y a que l'hydrogène et l'hélium. Les deux éléments les plus abondants de l'univers, environ 75% d'hydrogène et 23% d'hélium. Et d'ailleurs, cette composition est universelle. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Quand vous mesurez la composition chimique de chaque étoile, chaque galaxie dans l'univers, vous trouvez toujours 75% d'hydrogène et 23% d'hélium. Donc, ce sont des éléments qui sont fabriqués au tout premier. De nouveau, c'est prédit par la théorie du Big Bang, et donc ça donne de nouveau une cohérence. C'est un autre test observationnel de cette théorie, enfin.
C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre l'âge de l'univers dont on parlait à l'instant, oui, les éléments chimiques qui ont permis le Big Bang, et cette cohérence-là qui prouve que, oui, les scientifiques que vous êtes avaient choisi le Big Bang,
oui. Et puis là, le troisième grand pilier observationnel de la théorie du Big Bang, c'est bien sûr le rayonnement fossile. C'est ce qui reste, en quelque sorte, je l'appelle toujours la chaleur qui reste, c'est l'instant de la création.
Et oui, Caroline, vous, moi, mais enfin tout le monde, eh bien nous baignons dans une lumière diffuse émise il y a une douzaine de milliards d'années, alors que l'univers était encore minuscule par rapport à aujourd'hui. C'est ça le rayonnement fossile, et ça fait l'objet de plein de recherches.
Et oui, alors pour comprendre un peu mieux peut-être, parce que c'est des notions assez compliquées, ce que c'est que ce rayonnement fossile, donc cette lumière fossile tant recherchée par les astrophysiciens, il faut évidemment remonter le temps jusqu'aux origines, Trinh Chuan Chuan.
Vous voyez, donc, l'univers était très chaud au début, hein, quand il était parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense, des milliards de fois plus petit qu'un atome. Et au début, il avait une température 10 puissance 32 degrés Kelvin, donc 1 suivi par 32 zéros. Hein. C'est très, très, très chaud. Et puis, bien sûr, à mesure que l'univers se dilue, donc il y a une grande explosion, le Big Bang qu'on appelle, la température décroît, la densité décroît. Et quand la température décroît, les mouvements de collision entre les atomes sont moins violents. Et c'est ça qui permet la complexité. Vous voyez, des structures plus compliquées peuvent se former, donc d'abord des noyaux d'atomes, et puis après des atomes, et puis après des molécules, etc. Et entre-temps, il y a toujours donc cette chaleur qui est transportée par des photons, des particules de lumière. Et donc, au début, il y avait une jungle énorme d'électrons, de protons, etc. Les photons ne pouvaient pas se faufiler. Donc jusqu'à l'an 380 000 ans après le Big Bang, l'univers n'était pas du tout transparent. C'est comme si vous êtes dans un énorme brouillard. L'univers était plongé comme un énorme brouillard. Vous savez, quand vous êtes dans un brouillard, il y a la lumière est là, mais vous pouvez même pas voir votre main parce que la lumière ne peut pas se projeter jusqu'à vos yeux. Et donc, en fait, l'univers ne devient qu'en transparent qu'en l'an 380 000, parce que l'univers, à ce moment-là, s'est refroidi jusqu'à environ 10 000 degrés, hein, 10 000 degrés, environ la température de la surface du soleil, en fait. Et donc, à ce moment-là, les atomes peuvent se former. Donc, les électrons sont capturés par les noyaux d'atomes et forment des atomes. Et donc, finalement, il n'y a plus cette masse, cette jungle d'électrons. Et puis, donc, les photons peuvent se propager. Et c'est ces photons, en fait, qui sont ce qu'on appelle le rayonnement fossile, découvert en 1965 par Penzias et Wilson. C'est la plus vieille image que les télescopes peuvent voir.
Parce
que
vous savez, la plus vieille image dans le temps. Nous sommes bien d'accord.
C'est ça, exactement. Parce que les télescopes sont des machines à remonter le temps. La lumière met du temps à nous parvenir. Nous voyons l'univers avec toujours un peu de retard. La Lune, une seconde après, le Soleil, 8 minutes après, l'étoile la plus proche, 4 années après, la galaxie la plus proche, 2 millions d'années après, et ainsi de suite. Et donc, on peut remonter le temps en voyant plus loin, donc plus tôt. Mais on ne peut pas remonter au-delà de l'an 380 000 parce que l'univers n'était pas transparent. L'univers ne peut pas se propager à ce moment-là. C'est seulement à partir de l'année 380 000 que la lumière peut se propager librement. Et en fait, c'est cette lumière qui donc constitue ce rayonnement fossile que j'appelle métaphoriquement donc la chaleur qui reste l'instant de la création. Et donc, c'est cette découverte de ce rayonnement qui englobe tout l'univers. Hein. Même dans cette salle, si vous avez un télescope, vous pouvez le détecter.
Cette première image de lumière, on pourrait la capter.
Oui, oui, c'est tout autour de nous parce que ces lumières, ces photons, ont voyagé à travers l'univers jusqu'à nous. Sans aucune interaction, parce qu'il n'y avait plus de jungle électron. L'univers devient transparent. Donc, en fait, ces photons, c'est la trace fossile de ce qu'était l'univers en l'an 380 000. Donc, c'est pourquoi les astrophysiciens s'acharnent à étudier ce rayonnement fossile, parce que ça contient l'information de l'univers. Enfin, parce qu'il y avait des ondes, ce qu'on appelle des ondes acoustiques, des ondes de son qui se propagent dans ce rayonnement fossile, qui portent la marque des semences de galaxies, enfin, des choses qui vont germer pour devenir les galaxies que nous voyons maintenant dans l'univers. D'ailleurs, la NASA a lancé des satellites qui s'appellent COBE ou WMAP pour étudier ça, et puis les Européens, dont les Français font partie d'ailleurs,
Ils ont lancé les satellites Planck et Herschel.
Planck surtout, qui va étudier donc le rayonnement fossile. Donc on attend impatient les résultats de Planck, parce que ça va étudier le rayonnement fossile avec encore 10 fois plus de détails que WMAP. Ça va être extraordinaire. On va vraiment comprendre l'univers bébé, en quelque sorte. Vous voyez, en l'an 380 000, quand il est juste quelques centaines de milliers d'années après sa naissance.
Micro-méga sur RFI, et cette voix, c'est celle de Trinh Xuan Thuan, astrophysicien vietnamien. Et Caroline, là, oui, on parlait de Planck, hein, c'est un observatoire volant qu'on a lancé fin avril dernier, qui va regarder effectivement tellement loin dans l'univers qu'en fait il va regarder son passé, comme nous l'expliquait donc Trinh Xuan Thuan, et donc il va remonter jusqu'à peu de temps après le Big Bang, et ça vraiment, c'est très très attendu par tous les astrophysiciens.
Et notamment par Trinh Xuan Thuan, justement, pour en savoir un peu plus sur nos origines, sur l'origine de la vie, sur les débuts du temps. On comprendra peut-être mieux, comme il le dit joliment d'ailleurs, cet astrophysicien, comment l'infiniment petit a-t-il pu accoucher de l'infiniment grand.
Les astrophysiciens veulent comprendre, donc je vous ai dit, à l'an 380 000, il n'y a que des nuages d'hydrogène et d'hélium. Et comment ces nuages se sont effondrés sous la gravité pour former les premières étoiles? Et comment les étoiles ont formé les éléments lourds dont nous sommes faits qui vont amener à la vie la complexité et la conscience? Parce que vous savez, s'il n'y avait que l'hydrogène et l'hélium dans le Big Bang, nous ne serons pas là pour en parler. Parce que l'hydrogène est trop simple, il n'y a pas de chimie complexe possible. L'hélium est un élément stable, pas de chimie non plus. Et donc, il n'y aura qu'un univers rempli de nuages d'hydrogène et d'hélium, mais pas de vie et de conscience. Donc l'univers se devait en quelque sorte d'inventer les étoiles qui vont donc fabriquer les éléments lourds, comme le fer, l'argent, l'or, le carbone, l'azote, etc., qui font la complexité du monde, dont les molécules d'ADN sont faites, les neurones sont faits, donc qui permettent la vie et la conscience. Donc c'est très primordial dans cette histoire qui va mener à nous. Donc nous partageons tous la même généalogie cosmique avec tous les autres êtres vivants sur Terre. Nous sommes les frères des coquelicots des champs, les cousins des bêtes sauvages. Nous sommes faits de la même matière que notre planète. C'est pourquoi nous devons la protéger.
Nous sommes tous des poussières d'étoiles, vous le dites bien. Et oui. On comprend aussi d'autant mieux pourquoi Trinh Xuan Thuan, dans ce dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, il y a à côté de chapitres comme astéroïdes, théorie du chaos, lune, météorite, eh bien il y a également un chapitre sur le temps, sur la conscience aussi.
Oui, oui, parce que pour moi c'est le grand miracle. Parce que pour moi la vie c'est déjà un miracle, parce que ce sont les deux grands mystères de la science d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi des poussières d'étoiles inanimées sont devenues animées. Donc il y a 3,8 milliards d'années, la première cellule vivante est apparue sur Terre, on ne sait pas comment. Alors, est-ce que c'est apporté par des comètes? Je parle aussi de la panspermie, enfin des comètes qui peut-être apportent la vie sur Terre. Donc, nous sommes peut-être des descendants des extraterrestres, on ne sait pas. Parce que vous voyez, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Hein. Donc, la première cellule vivante, 3,8 milliards d'années. Donc, il y a eu seulement 700 millions d'années. Alors, certains pensent que la vie est un miracle, très compliqué pour surgir seulement 700 millions d'années. Donc, si... on l'apporte des comètes, on a beaucoup plus de temps, bien sûr, parce que l'univers, lui, a 14 milliards d'années.
C'est-à-dire que la vie serait bien antérieure à la vie sur Terre.
Voilà. Donc ça, c'est une théorie, la panspermie. Ben, c'est pas du tout confirmé que nous venons de l'espace. Peut-être que la vie s'est formée elle-même sur la Terre, mais on ne sait pas. Et le deuxième miracle, cette vie devient consciente. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, moi, je dis toujours que c'est, le cerveau, c'est l'objet le plus compliqué, l'univers. Il y a beaucoup plus compliqué que l'univers ou les galaxies. Parce que finalement, avec les lois physiques, on peut comprendre la formation des galaxies, la voie des étoiles, mais on ne sait pas encore comment nous réfléchissons, comment nous sentons les émotions, comment nous aimons notre mari ou nos enfants, pourquoi nous créons, pourquoi nous avons peur. Nous ne savons pas tout ça, en fait. Donc c'est encore un grand mystère, hein, ce qui se passe entre nos deux oreilles.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Trinh Xuan Tuan, que la science pourrait répondre à des questions comme comment fonctionne-t-on ? Qu'est-ce que c'est que ce mystérieux cerveau qui nous permet
Je pense que la science va toujours avancer. Il y aura toujours un certain progrès. On va toujours s'approcher. Alors, est-ce qu'on va vraiment s'approcher de la réalité ultime ? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, même l'origine du Big Bang est enlevé un mystère. Vous savez, on peut remonter ce qu'on appelle jusqu'au temps de Planck, c'est-à-dire quand la 10 puissance moins 43 secondes, qui est déjà, on extrapole nos lois physiques connues jusqu'à un temps très petit. Mais vous savez, donc, il y a deux théories qui sont les pilier de l'astrophysique contemporaine, qui c'est la relativité générale, donc qui décrit l'univers, l'infiniment large, et puis la mécanique quantique, qui décrit l'infiniment petit, donc le comportement des atomes, des molécules, etc. Mais pour l'instant, ces deux théories sont séparées. Et dans l'histoire de l'univers, bien sûr, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Donc, il faut allier les deux pour comprendre ce qui se passait au Big Bang, et donc faire ce qu'on appelle une théorie de la gravité quantique, et on n'est pas encore là. Donc, vous voyez, la physique perd pied à ce moment-là, justement. Alors, il y a des théories qui sont proposées, la théorie des cordes, où on propose que les particules ne sont pas des points comme ça, sans extension spatiale, mais des bouts de cordes infinitésimalement petites, 10.123 qui vibrent, et chaque vibration donne naissance à une particule, comme une vibration donne un proton, une autre vibration donne un électron, etc. Donc, la nature n'est qu'une vaste symphonie de cordes qui vibrent. Mais il n'y a aucune vérification expérimentale encore sur ça.
Il y a aussi des théories d'univers multiples, voilà, de multivers, voilà. Et donc de vie qui aurait pu se développer ailleurs à chaque fois dans des univers parallèles, si j'ose dire.
Voilà, donc justement, on pense que l'univers est parti de ce qu'on appelle une mousse quantique, c'est-à-dire plein de fluctuations quantiques qui s'enflent par ce qu'on appelle un processus qui s'appelle l'inflation, une dilution exponentielle.
Donc des bulles, quoi, des espèces de bulles.
Oui, des bulles, l'univers se forme, et donc nous ne sommes qu'une bulle dans une infinité d'autres bulles univers, dans un méta-univers. Et donc, dans notre univers, nous savons que les choses ont été réglées de façon extrêmement précise pour la vie et la conscience, mais dans les autres univers, peut-être qu'ils sont tous dépourvus de vie et de conscience, parce que vous savez, le réglage est tellement fin, de l'ordre de 10 puissance moins 60, c'est-à-dire la précision que doit exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré, donc très petit, hein, qui serait placé au bord de l'univers à quelques dizaines de milliards d'années-lumière. Donc, une précision extraordinaire.
Pour que la vie puisse...
Pour que les étoiles puissent se former. Et les étoiles, c'est primordial dans notre histoire, parce que c'est eux qui fabriquent les éléments lourds. Et donc, sans les étoiles, nous ne serons pas là pour en parler. Alors, est-ce que c'est le fruit du pur hasard ou de la nécessité, hein, pour reprendre la phrase de Jacques Monod dans son œuvre. Et des gens qui préfèrent le hasard disent que donc, il y a une infinité d'univers, hein, c'est ce qu'on appelle un multivers. Et c'est par hasard que nous avons la combinaison gagnante, en quelque sorte, des constantes physiques et de lois physiques, pour avoir la formation des étoiles et donc de la vie et la conscience. Mais tous les autres ont une combinaison perdante et donc ils sont dénués de vie et de conscience. Donc, c'est par hasard que nous sommes là, en quelque sorte, dont l'univers n'a aucun sens. Alors, l'autre possibilité, c'est qu'il y a un seul univers. Et donc, s'il y a un seul univers, on doit expliquer ce réglage par un principe créateur. Hein. Je suis bouddhiste, donc je ne parle pas de Dieu, etc., mais un principe créateur que je vois chaque fois à mon télescope. Hein. Cette beauté, cette harmonie, cette organisation n'est pas par hasard pour moi. Hein. C'est tellement bien organisé. Alors, je rejette l'hypothèse du hasard parce que pour moi, un multivers est invérifiable. Avec nos télescopes, on peut voir seulement notre univers. Donc, ce qui est invérifiable, pour moi en tout cas, ça devient la métaphysique. On peut spéculer, faire des tas d'hypothèses, mais si on ne peut jamais vérifier avec nos instruments, nos télescopes, pour moi, ce n'est pas la science. Et donc, je parie sur la nécessité d'un principe créateur dans notre univers qui règle les choses de façon très précise. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique fort, du mot anthropos grec, donc c'est ce qui veut dire homme en quelque sorte. Et voilà, donc c'est ça le dilemme entre le hasard et la nécessité. Mais c'est un pari, hein. La science ne peut pas choisir.
Voilà, tout ce que nous dit Trine Swanswan, c'est vrai que c'est un scientifique qui a un positionnement différent de la plupart des autres.
Bah oui, lui, il fait le pari d'un principe créateur, il a dit d'un principe anthropique et donc pas du hasard. Alors il faut rappeler, il a dit lui-même que Trine Swanswan est bouddhiste. Il a publié avec Mathieu Ricard De l'infini dans la paume de la main et on peut dire que c'est ça qui fait son originalité, cette quête spirituelle véritable alliée à une vraie rigueur scientifique. Trine Swanswan ose poser et se poser toutes les questions, même celles métaphysiques que récusent beaucoup d'autres astrophysiciens.
L'étude des phénomènes, c'est bien, c'est intéressant. Mais pour moi, je vais toujours un peu plus loin. La philosophie, la métaphysique m'intéressent aussi. Ce sont les questions, le sens, l'existence, tout ça. Finalement, ce sont ces questions qui m'intéressent. Vous savez, l'astrophysicien se demande les mêmes questions que les théologiens. C'est-à-dire, d'où venons-nous? Quelle est l'origine? Qui a créé l'univers? Où allons-nous? Donc, ce sont des questions métaphysiques, théologiques très profondes dont l'humanité s'est toujours posée. C'est dans toutes les cultures possible. Et donc, pour moi, la science donne un éclairage sur certaines de ces questions. Et pour moi, je trouve que l'homme doit être complet. Le scientifique a aussi des besoins esthétiques, des besoins philosophiques, des besoins métaphysiques, des besoins spirituels. Donc, il faut un tout. Alors, pourquoi compartimenter les choses? Parce que l'homme est un être complet. Et donc, dans ce dictionnaire, je voulais donner ces aspects aussi, ces questionnements métaphysiques, ces questionnements spirituels aussi. Et je parle de la poésie aussi, je parle aussi de la beauté, de l'esthétique. Bon, l'homme est un tout. Hein.
Pour terminer, peut-être une image pour vous d'un émerveillement quasi amoureux, justement, dans votre observation du ciel et des étoiles. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme image?
Vous savez, mon sujet de recherche, c'est vraiment les galaxies bébés. Hein. En fait, la plupart des galaxies sont nées le premier milliard d'années après le Big Bang. Donc, ils ont un âge de quelques 13 milliards d'années. Mais moi, je recherche les galaxies bébés qui naissent maintenant, c'est-à-dire dans le dernier milliard d'années. Alors, quand j'ai eu le bonheur de découvrir une galaxie qui s'appelle Insuki 18, c'est une galaxie qui est la plus jeune connue de tout l'univers, donc qui a fabriqué très peu d'étoiles et donc très peu d'éléments lourds. En utilisant le télescope Hubble, c'était un moment émerveillant. Donc, c'est aussi ça, la recherche, c'est aussi la joie, la découverte aussi.
Merci beaucoup, Trine Swanswan.
Merci.
Et alors, bien sûr, si vous avez des questions, enfin des choses à formuler autour de cette interview, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le site de RFI, donc la page Micro-Méga, ou sur Facebook. Il est passionnant. On le lit aussi, Caroline. On l'écoute, mais on le lit.
Exactement, on peut le lire. Alors, je vous cite un petit exemple. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Nous sommes donc les enfants du temps et de la lumière. C'est joli. C'est donc signé Trine Swanswan, astrophysicien, un peu poète, qui vient de publier son dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles aux éditions Plomb.
Caroline Lachowski, merci. Parle du molybdène. Et oui, changement de sujet. Le molybdène, ce produit indispensable aux médecins, en cardiologie, en cancérologie. La production de ces radioéléments très faiblement radioactifs sont utilisés pour l'imagerie médicale et pour traiter les tumeurs, est en pleine crise. Les réacteurs qui produisent donc ce molybdène sont tous en fin de vie, temporairement arrêtés pour maintenance ou sur le point de l'être. Et les prochains réacteurs capables de prendre la relève ne verront le jour qu'en 2014. En attendant, il faudra donc gérer la pénurie, reporter certains examens, un vrai comble. Et déjà, en Amérique du Nord, la pénurie retarde certaines interventions. Au Canada, on crie au scandale. Alain Alberman est responsable des irradiations au commissariat à l'énergie atomique et explique les raisons de cette pénurie mondiale.
Aujourd'hui, la crise qui devient chronique dans le monde entier, en fait, concerne surtout l'imagerie. Et notamment parce que c'est assez difficile à fabriquer, c'est-à-dire qu'en fait, les radioéléments sont extraits d'uranium irradié. Donc la première étape, c'est d'irradier des cibles d'uranium très enrichi dans nos réacteurs. À la suite de quoi, on transfère ces cibles dans une première usine qui va extraire le premier isotope, qui est une vie courte, le molybdène 99. Et ensuite, ce molybdène est renvoyé dans une autre usine pour laquelle on va le conditionner sous forme de générateurs de petite taille. Et ce sont ces générateurs qui sont envoyés directement dans les hôpitaux et qui sont utilisés typiquement pendant une semaine dans l'hôpital pour faire des scintigraphies à la demande.
Donc c'est toute une chaîne de production qui est à l'échelle européenne.
C'est une production avec plusieurs opérateurs. Vous avez en Europe 3 réacteurs, 2 usines d'extraction et 3 fabricants de générateurs. Et donc tout ça se coordonne le mieux possible en fonction des différents plannings des uns et des autres. Notamment la première étape, c'est d'avoir toujours un réacteur disponible. Et aujourd'hui, c'est ça le point dur. c'est que les réacteurs qui fabriquent ces radioéléments pour la médecine sont assez vieillissants et ils sont de plus en plus arrêtés pour des travaux de maintenance ou de réparation.
C'est le cas en France de notre réacteur Osiris qui est arrêté pour l'instant.
Voilà. Alors Osiris fait actuellement des travaux de rénovation cette année puis l'année prochaine en vue de poursuivre l'exploitation du réacteur jusqu'en 2015.
Autrement dit, à partir de 2015, ça devrait mieux fonctionner. Mais là, on a une période difficile jusqu'à 2015.
Voilà, tout à fait. Je crois que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. La meilleure solution, c'est la coordination. C'est de planifier le mieux possible les opérations. Aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les marges de manœuvre ne sont pas au niveau des producteurs, mais sont au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on reporte le problème sur l'utilisateur final, qui est le service de médecine nucléaire à l'hôpital. Mais ce service de médecine nucléaire, il a une marge de manœuvre pour planifier ses patients. Donc aujourd'hui, quelque part, la pénurie chronique qui s'annonce fait qu'il y a des dispositions qui sont prises, soit pour identifier les pathologies prioritaires qui nécessitent le diagnostic d'imagerie, qui dans certains cas est irremplaçable, notamment dans les problèmes de cancer osseux, et puis éventuellement aussi de reporter certains examens, j'allais dire de routine. Donc c'est une gestion de pénurie à long terme. Il n'y a pas de solution immédiate qui permette de remettre sur le marché du produit. Les deux principaux réacteurs qui fournissent le molybdène dans le monde sont au Canada et en Hollande. Le réacteur canadien est arrêté, au moins jusqu'au premier trimestre 2010. Le réacteur hollandais doit s'arrêter au premier trimestre 2010 aussi, et pour des réparations qui dureront plusieurs mois. Donc il y a quand même une grosse incertitude à partir de mars-avril 2010, et malheureusement il n'y a pas de solution de rechange viable. Il y a des méthodes plus simples pour produire du molybdène, mais c'est en très très petite quantité. Là on parle quand même d'examens qui, à l'échelle de la planète, c'est 30 millions d'examens par an, et qui nécessitent une production continue en permanence.
Est-ce que vous avez l'impression que la pénurie va être encore plus importante en Amérique du Nord qu'en Europe ?
C'est déjà le cas, parce que l'Amérique du Nord dépend essentiellement du réacteur canadien qui est arrêté. En plus, sur les 30 millions d'examens, il y a presque 15 millions d'examens qui sont effectués en Amérique du Nord. Donc ils sont les premiers forcément à souffrir de la pénurie. Donc pour l'instant, les autres réacteurs fournissent un petit peu les services de médecine nucléaire, mais la crise est déjà là-bas, chez eux. Et en Europe, le problème pour nous, ce sera l'année prochaine.
Et oui, c'était Alain Alberman, responsable des irradiations au commissariat à l'énergie atomique. Micro-méga, dans 10 minutes, nous revenons. Fin de l'émission avec notre invité multifacette qui va nous entraîner vers les rivages de la Méditerranée et vers la biodiversité marine. A tout de suite.